singing, ou la tradition chorale en Angleterre.
Let's start at the very beginning.
Now, children, do re mi fa so and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this. So do la fa mi do re. Can you do that?
So do la fa mi do re.
So do la ti do re do.
So do la ti do re do.
Now put it all together.
Pour rien au monde, les Anglais ne manqueraient de chanter le Jérusalem de Hubert Parry lors d'événements sportifs comme les matchs de football, le mariage de Kate et William, mais aussi pour la dernière soirée des proms, les fameux concerts promenades au Royal Albert Hall de Londres où toute la foule entonne cet hymne. Composé le 10 mars 1916 sur un poème de William Blake, ce fameux Jérusalem est chanté pour la première fois par 300 personnes le 28 mars 1916 lors d'un rassemblement au Queen's Hall de Londres. En Angleterre, ce sont des centaines de chœurs amateurs qui se rassemblent dans tout le pays, dans les écoles, les chapelles, les cathédrales et universités, une tradition de plusieurs siècles. À l'origine, la percée industrielle qui débute en 1770 en Angleterre pour être définitivement nommée Révolution en 1884. C'est une forte augmentation de la consommation chez le peuple anglais qui va entraîner un bouleversement économique, politique et social du pays. L'industrie du coton va alors se développer fortement et la construction des chemins de fer révolutionne le rythme du pays. Napoléon III prendra d'ailleurs pour modèle l'Angleterre pour lancer l'aventure française du chemin de fer. Mais cette révolution industrielle va provoquer d'importants bouleversements au sein de la population qui se déplace vers les villes. En 1881, la population de Londres est trois fois plus importante que celle de Paris. Cet afflux de population accentue les contrastes entre les beaux quartiers et ceux où s'entasse une énorme population ouvrière, n'ayant que peu ou pas d'instruction, indisciplinée et livrée à elle-même. Plutôt que de s'appuyer sur la répression et les punitions, certains industriels philanthropes s'efforcent de bâtir écoles et chapelles. Le système éducatif et social fait place à la musique et au chant dans l'instruction des jeunes enfants, mais aussi des adultes. On combine musique savante, ballade et romance populaire à la mode. Grâce aux chorales, le lien social se reforme. C'est aussi en Angleterre le temps d'une réflexion menée au sein de l'Église. Les idéaux de philanthropie, de tempérance et de syndicalisme méthodiste imprègnent progressivement les couches populaires. Faisant la part belle au chant choral, de nombreux choristes des chapelles méthodistes deviennent membres des nouvelles sociétés chorales. Ce sont les frères Wesley qui, en écrivant plus de 6500 cantiques, redonnent au chant d'assemblée toute la force de la Bible que les enfants apprennent à lire au cours de leur éducation. Le renouveau de la religion accompagne alors celui de la morale. Car l'influence morale de la musique, si elle est correctement enseignée, déclare William Edward Hickson, farouche partisan de l'apprentissage de la musique à l'école en 1837, permet d'ouvrir le cœur à la bonté, la justice et la générosité. Mais comment apprendre les notes si on ne connaît pas le solfège ?
A deer, a female deer, ray, a drop of golden sun.
Partout en Angleterre, les chorales se multiplient. Alors pour que tout le monde puisse chanter sans connaître le solfège, on crée en 1843 une méthode très particulière, appelée le tonique sol fa, qui consiste à utiliser les initiales des notes pour les désigner. Celui dont les œuvres vont constituer le répertoire savant des chorales anglaises, c'est Handel. Arrivé à Londres en 1713, ce compositeur d'origine allemande va être l'un des artisans de la construction de l'identité britannique. Sa naturalisation, son protestantisme, son attachement aux valeurs chrétiennes font de Handel le compositeur anglais emblématique du XVIIIe siècle. Mais ce sont ces oratorios de guerre qui vont offrir au peuple anglais l'opportunité de s'identifier. Les sujets extraits des épisodes guerriers de l'Ancien Testament vont directement résonner avec le contexte politique, social et religieux des années 1730-1750 et permettre aux Anglais d'exalter en chantant les récits de leur propre victoire militaire. C'est alors que résonnent dans les foyers de la bourgeoisie victorienne les sons des pianos que l'on découvre. On y joue pudiquement les romances sans paroles du compositeur Felix Mendelssohn que le public anglais découvre lors de son premier voyage en Angleterre en 1829. Ce dernier incarne l'esprit romantique mêlé à la tradition luthérienne tout en défendant les valeurs chrétiennes. Son succès auprès du peuple anglais sera définitivement couronné lors de l'interprétation de son oratorio Elias, créé le 26 août 1846 à Birmingham. Il est alors accompagné de 271 choristes. Et les 2500 spectateurs demandent que 8 des 40 numéros de l'œuvre soient bissés. À jamais inscrit dans la tradition, il est chanté en Angleterre chaque année pour les fêtes de Pâques. Entre 1840 et la fin du siècle, la taille des chœurs augmente de manière spectaculaire, passant généralement de 100 choristes à 300 pour les plus grands. Et surtout, ils incluent une proportion croissante de femmes. Au 19e siècle, les répétitions deviennent alors un espace de rencontre avec le sexe opposé. Cette mixité des chorales anglaises est de loin remarquable et ce phénomène embrasse toutes les couches sociales. L'engouement pour les chœurs ne cesse alors de se développer. Au tournant du siècle, les compositeurs anglais comme Elgar ou plus tard Benjamin Britten vont pouvoir puiser en toute liberté dans ce formidable patrimoine vocal. Grâce au travail et à l'assiduité de toutes ces chorales dans lesquelles eux-mêmes ont chanté durant leur enfance, ces compositeurs contribuent au renouveau de la musique anglaise. Ils participent ainsi à l'extraordinaire répertoire choral, aujourd'hui encore chanté et toujours agrémenté de compositions nouvelles. Qu'elle soit 100, 200, 400 ou simplement 8, les voix rassemblées pour chanter parviennent toujours à créer une lumière éternelle.